Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation, le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant de commencer ce cours, je voudrais rattraper une petite erreur de nom que j'ai faite la dernière fois au dernier cours. En parlant des prophéties, je vous ai parlé des prophéties qui rêvaient dans le sommeil, et j'ai donné l'exemple de Samuel, petit enfant qui était déjà en contact avec le bon Dieu, qui l'appelle pendant la nuit. En fait, j'ai dit que c'était Salomon, c'est pas Salomon, mais le prophète Samuel. Donc je vais rattraper cette erreur. Nous commençons donc la deuxième partie de ce traité sur les états de perfection, qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante aussi pour nous, tout pour la vie spirituelle. C'est celle qui traite de la division entre la vie contemplative et la vie active. Le monde moderne meurt parce que personne ne sait méditer. Les gens ne prennent plus le temps de méditer. Ils courent, ils sont dans le bruit toute la journée, ils sont incapables de rester dans la séance plus de quelques secondes, incapables de s'arrêter de courir, sauf quand ils dorment. Et du coup, ils ne prennent plus le temps de s'occuper de leur âme. Le monde moderne vit comme si la nature humaine n'était composée que d'un corps. Ne s'occupe pas de l'âme. Eh bien, saint Thomas, par cette division fondamentale entre la vie active et la vie active étant au service de la vie contemplative, nous explique justement que l'homme est composé d'une nature double en quelque sorte. La nature humaine est composée d'un corps et d'une âme, donc il y a une vie corporelle et une vie contemplative, une vie de l'âme. Et la vie active est au service du corps comme la vie contemplative est au service de l'âme. Et l'âme étant la forme du corps, c'est donc l'âme qui doit diriger le corps et pas l'inverse. Donc c'est la vie contemplative qui doit être au sommet, la vie active qui est comme une servante de la vie contemplative. Malheur au corps qui domine l'âme, malheur à la vie active qui domine la vie contemplative. Là on va toucher également un des gros problèmes de tout dans la tradition, même dans la tradition cédévacantiste, ce qu'on appelle le volontarisme, l'activisme. Deux hérésies énormes qui ont des conséquences dramatiques pour la vie spirituelle. L'activisme et le volontarisme ont tué la vie spirituelle. L'activisme, c'est quoi? C'est une tendance à remplacer la contemplation par l'action, remplacer la vie de prière par l'action. Donc ce sont tous les gens qui nous disent: Monsieur l'abbé, j'ai pas le temps de prier, mais par contre je fais l'action. Même des gens qui veulent se lancer dans l'apostolat à fond mais qui prient pas pour soutenir l'apostolat, ils tombent dans l'activisme. Le volontarisme, c'est un peu différent. Le volontarisme, c'est une certaine forme d'orgueil qui consiste à dire: je vais obtenir tel bienfait spirituel à la force du poignet, comme si les bienfaits spirituels venaient de l'homme, alors qu'ils ne viennent que de Dieu. Le pape Léon XIII, je crois que c'était en 1892, a envoyé une lettre au cardinal américain. J'ai son nom au bout de la langue, ça reviendra quand j'y penserai plus. Un cardinal américain à la fin du 19e siècle pour condamner l'américanisme, c'est-à-dire une tendance à détester ou à mépriser les vertus passives pour ne pousser que sur les vertus actives. C'est le cardinal de Baltimore, dont j'ai oublié le nom à l'instant. Mais il nous faut expliquer et bien comprendre ces choses-là, parce que si ces choses étaient vraies en 1892, à la fin du 19e siècle, pensez bien qu'elles sont encore bien plus vraies aujourd'hui. Donc il faut travailler cette division de saint Thomas. Je conseille beaucoup à ceux qui ont un peu de temps d'aller directement sur le texte de saint Thomas d'Aquin. Donc ces questions sur la vie active et la vie contemplative courent les questions, ça commence à la question 179 jusqu'à la question 182. Et même dans la partie qui suit, c'est-à-dire la partie sur les états de vie eux-mêmes, l'état de perfection en général, il y a beaucoup de choses qui touchent directement ou indirectement à la vie contemplative à partir des questions 183. Je vais résumer tout ça directement à partir du texte de saint Thomas. Donc commençons par la question 179, la division entre la vie active et la vie contemplative. Donc la question 179, à l'article 1, donc c'est une question assez courte, en deux articles. L'article 1 demande si la division entre la vie active et la vie contemplative est fondée. Donc est-ce que cette division est nécessaire? Et il répond, saint Thomas répond, en citant saint Grégoire le Grand, qui déclare qu'il existe deux vies, où le Dieu Tout-Puissant nous instruit par sa sainte parole, la vie active et la vie contemplative. Donc de même, dit saint Thomas, que la vie des plantes se définit par la nutrition et la génération, celle des animaux par la sensation et le mouvement local, celle des hommes par la pensée et l'agir rationnel. En philosophie, on dit que tout être vivant a une âme, puisque l'âme est la forme du corps, donc il n'y a pas de vie sans âme. Un caillou, par exemple, un rocher, n'a pas de vie, c'est un être inerte. C'est une créature de Dieu aussi, attention, c'est le bon Dieu qui crée la terre. Mais le caillou n'a pas de vie interne, de vie propre, donc il n'a pas d'âme. Un arbre, une fleur, sont des êtres vivants, ils croissent, ils se développent, ils donnent des fleurs, ils donnent des fruits, et ils vont se reproduire à partir des graines qui tombent des fruits. Donc, un arbre ou une plante ou une fleur, étant un être vivant, a une âme, mais qu'on appelle une âme végétative. C'est-à-dire, c'est une âme qui n'a qu'une puissance végétative. L'arbre, la fleur étant vivante, elle ne peut pas être vivante sans avoir une âme en philosophie, philosophiquement parlant. Donc, on dit que cette âme est végétative. C'est une vie purement végétative qu'on retrouve aussi chez l'homme. L'homme a également une vie végétative. Chez l'homme, il y a en plus d'autres choses plus élevées. Il peut y avoir des hommes, même qui dans certains cas, ne se retrouvent qu'avec une simple vie végétative. Par exemple, quelqu'un qui est dans le coma. Un homme qui est dans un coma profond, on dit qu'il est en vie végétative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il respire, son cœur bat, plus ou moins aidé avec des instruments externes parfois, mais son cœur bat, son sang circule dans les veines, le cerveau est encore alimenté en oxygène et en sang frais, même si c'est de façon imparfaite. Donc il y a encore une vie, ce qu'on appelle la vie végétative. Mais prenez un animal, comme par exemple un chat ou un chien. Un chat ou un chien a également une vie végétative puisqu'il est vivant. Tout être vivant a une vie végétative. Un chat ou un chien a une vie végétative, mais ils ont plus une vie végétative, une vie sensitive. Vous coupez une fleur d'une branche d'arbre, l'arbre ne souffre pas du fait que vous enleviez sa fleur. Il ne va pas souffrir physiquement parlant puisqu'il ne sent rien, il n'a pas d'âme sensitive. Un chat, au contraire, vous le tirez sur la queue, il souffre. Pourquoi? Parce qu'il a une âme qui est à la fois végétative, il a la vie, mais également sensitive, c'est-à-dire qu'il a des sensations. Il sent avec des sens, comme nous. Prenez l'homme. L'homme a également une âme, puisqu'il est vivant. Il a une âme végétative, bien entendu, mais il a aussi une âme sensitive, comme les animaux, mais en plus de ça, il a une âme rationnelle, une âme intellectuelle. Quand on parle de l'âme en français, en général, on parle toujours de l'âme intellectuelle, de l'âme raisonnable, une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder parce que l'âme est immortelle. Donc tout homme a une vie intellectuelle. Au-dessus de ça, vous avez une autre nature créée par Dieu, à savoir la nature angélique. Les anges, eux, sont des purs esprits. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps. Donc, si vous voulez, on peut résumer en disant que c'est comme une âme sans corps, mais une âme qui n'a pas besoin d'un corps pour être complète. L'âme d'un homme est associée à un corps, et cette âme a un désir constant d'être reliée à ce corps. C'est pour cela qu'après la mort physique d'un individu sur la terre, d'un homme sur la terre, il y a séparation entre son corps et son âme, mais l'âme qui va être jugée par Dieu, qui sera ou au ciel ou en enfer, ou dans certains cas dans les limbes, ou au purgatoire aussi, a toujours ce désir d'être associé à l'âme, au corps qui était le sien, qui a été associé à cette âme pendant toute la vie sur la terre. C'est pour ça qu'à la fin des temps, lorsqu'il y aura la résurrection générale, le corps humain de chaque individu va regagner son âme, soit au ciel, soit malheureusement en enfer. Pour l'ange, c'est différent. Pourquoi ? Parce que l'ange est un pur esprit qui, par définition, n'a pas de corps. Donc un ange n'a pas de vie végétative et n'a pas de vie sensitive. L'ange étant un pur esprit, en quelque sorte, n'a qu'une vie intellectuelle, purement raisonnable. C'est un être raisonnable, il pense, il réfléchit, même bien plus vite que nous, parce qu'il il comprend les choses par intuition, pas par abstraction comme nous, mais il a une vie intellectuelle. Donc quand le saint Thomas nous dit que la vie des plantes se définit par la nutrition et la génération, ça c'est la vie végétative, donc l'âme végétative. Quand il dit que la vie des animaux se définit par la sensation et le mouvement local, ça c'est la vie de l'âme, sensitive. Première vie des plantes, c'est l'âme végétative, vie des animaux, c'est l'âme sensitive, couplée à l'âme végétative, et enfin, pour l'homme, la vie de l'homme se définit, dit saint Thomas, par la pensée et l'agir rationnel, c'est-à-dire l'agir de la raison. C'est donc l'âme sensitive. Je veux dire l'âme intellectuelle, l'âme raisonnable, pardon. Toute âme raisonnable pour un homme est ipso facto également sensitive et végétative. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Une âme végétative n'est pas forcément sensitive et pas forcément intellectuelle. Encore une fois, un arbre ou une fleur n'a qu'une âme végétative. Un chat ou un chien ont une âme végétative couplée à une âme sensitive. L'homme a une âme végétative, une âme sensitive, une âme intellectuelle. Puisqu'il y a des hommes, dit saint Thomas, qui s'adonnent principalement à la contemplation de la vérité, tandis que d'autres font leur occupation préférée des actions extérieures, on est fondé à diviser la vie humaine en active et contemplative. Et saint Thomas va insister lourdement en disant que le propre de l'homme, c'est justement la contemplation de la vérité. Donc l'homme a une âme intellectuelle, une âme raisonnable, pour contempler la vérité. Article 2. Cette division de la vie active et contemplative est-elle adéquate ? Donc saint Thomas prend l'exemple d'un passage de l'Ancien Testament à propos des deux femmes de Jacob. Donc Jacob va travailler pour Laban et pour obtenir la main de sa fille, Rachel, mais il va se faire rouler par Laban et il va se retrouver avec Lia, qui avait les yeux chassieux, et qui était une femme de valeur certainement, mais qui n'était pas aussi belle que Rachel. Et donc Jacob va devoir travailler des années en plus pour pouvoir acheter Rachel. Donc Lia est le symbole, dit saint Thomas d'Aquin, de la vie active, et Rachel de la vie contemplative. Voilà son texte. Ces deux vie active et vie contemplative se voit figurée par les deux femmes de Jacob, la vie active par Lia, la vie contemplative par Rachel. Deuxième exemple qu'il donne, ce sont les deux sœurs de Saint Lazare. Notre Seigneur Jésus-Christ est ami avec la famille de Saint Lazare, donc avec aussi ses deux sœurs, Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe. Il allait souvent à Béthanie, près de Jérusalem, se reposer dans cette maison, cette famille qu'il aimait beaucoup. Eh bien, c'est pareil pour les deux hôtesses du Seigneur. La vie contemplative est symbolisée par Sainte Marie-Madeleine et la vie active par Sainte Marthe. Dans un passage, il est dit que, de l'Évangile, il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ vint et que Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine était au pied de notre Seigneur Jésus-Christ en train d'écouter les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que Sainte Marthe, elle, faisait tout le service pour préparer le repas et servir le repas. Et Sainte Marthe s'est plainte auprès de notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant « Mais ça ne vous fait rien de voir que c'est moi qui fais tout le travail ?» Et notre Seigneur de répondre « Marie a pris la meilleure place qui ne lui sera pas ôtée. » Donc, Marthe qui travaille pour servir notre Seigneur, le symbole de la vie active. Sainte Marie-Madeleine, au contraire, qui écoute notre Seigneur Jésus-Christ, qui boit toutes ses paroles, est le symbole de la vie contemplative. Et saint Thomas explique bien, donc l'intellect humain se divise ainsi en actif et contemplatif. L'activité intellectuelle, en effet, peut avoir pour fin soit la connaissance même de la vérité, c'est l'affaire de l'intellect contemplatif, soit quelque action extérieure, et c'est l'affaire de l'intellect pratique ou actif. Encore une fois, il répète la même chose en disant que la fin de l'homme, à cause de son caractère intellectuel, son caractère raisonnable, la fin de l'homme, c'est la connaissance même de la vérité. Donc un homme qui passe 80-90 ans sur la terre sans même se préoccuper de savoir où est la vérité, c'est un homme qui n'a rien compris, qui a perdu son temps, qui se retrouvera avec les mains complètement vides en passant devant notre Seigneur après sa mort. Ensuite, on passe à la question 180 de la vie contemplative. Une question beaucoup plus longue. Il y a 8 articles. Voyons un petit peu rapidement ces articles. Article 1 de la question 180 de la Secunda Secundae. La vie contemplative appartient-elle à l'intelligence seule ou bien fait-elle appel aussi à la volonté? Saint Thomas répète dans le premier argument, il répète la première objection, la contemplation a pour fin la vérité. Bon, mais ensuite, il va détailler un peu les choses. Donc, il répète la même chose, il répète très souvent, on voit très bien le caractère très didactique de la formation de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas répète tout le temps les mêmes choses, et à chaque fois, il rajoute quelque chose, si vous voulez. On appelle ça le phénomène de la tuile. Moi, personnellement, j'essaie d'enseigner comme ça. Bon, je n'ai pas, bien sûr, la science et la synthèse de saint Thomas d'Aquin, mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais saint Thomas répète constamment les choses. C'est un reproche que moi souvent fait, mais monsieur l'abbé, vous répétez trop souvent les mêmes choses. Et je pense que la répétition est à la base de tout enseignement. On ne peut pas enseigner sans répéter. On dit qu'il faut répéter 70 fois une chose à un enfant pour que ça soit rentré dans sa cervelle. Je pense que pour les adultes, c'est souvent la même chose. Et même pour certains adultes, je me demande s'il ne faut pas plus que 70 fois. Donc, saint Thomas répète au début du corps de l'article, on appelle contemplative la vie de ceux dont l'intention primordiale est de contempler la vérité. Donc le but de notre vie, c'est toujours la contemplation de la vérité. Et la fin étant première dans l'intention et dernière dans l'exécution, il faut garder constamment dans notre esprit ce désir de contempler la vérité. Donc, il faut situer la vie contemplative dans la charité pour Dieu. J'aime bien cette expression, c'est une expression de Saint Grégoire le Grand. Donc, il faut situer la vie contemplative dans la charité pour Dieu en tant que cet amour nous embrase du désir de contempler la beauté divine. Et parce que chacun se délecte dans la possession de ce qu'il aime, la vie contemplative a pour terme la délectation. Or, celle-ci se trouve dans l'effectivité et rend l'amour plus intense. Donc on retrouve la même idée. Parce que chacun se délecte dans la possession de ce qu'il aime, la vie contemplative a pour terme la délectation. Donc la vie contemplative a pour terme la contemplation de la vérité. Cette contemplation de la vérité va entraîner une délectation intellectuelle. La vie contemplative, méprisant tout autre souci, brûle du désir de voir la face de son Créateur. Donc c'est ça ce que Saint Grégoire le Grand appelle la charité pour Dieu. Article 2 de la question 180. Les vertus morales appartiennent-elles à la vie contemplative? Alors saint Thomas répond ainsi. Les vertus morales sont ordonnées à des actions extérieures. La vie contemplative, au contraire, implique la cessation de l'activité extérieure. Les vertus morales n'appartiennent donc pas à la vie contemplative en tant que telle. Les vertus morales n'appartiennent pas à l'essence de la vie contemplative, dit saint Thomas, et la raison en est que la fin de la vie contemplative est la considération même de la vérité. Oui, il répète encore une fois la même chose. Les vertus morales se rattachent à la vie contemplative à titre de disposition préalable. Par exemple, ce sont les vertus dites cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Eh bien, ces vertus servent de tremplin, si vous voulez, à la vie contemplative. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avoir la vie contemplative sans avoir un certain nombre de vertus qui forment en quelque sorte le terreau sur lequel la vie contemplative va pouvoir grandir. Ce sont des dispositions préalables, dit saint Thomas. L'acte de contemplation, qui fait l'essence même de la vie contemplative, se heurte à un double obstacle, la violence des passions, ça c'est surtout le fruit des trois concupiscences, concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, l'orgueil, violence des passions qui détourne l'intention de l'âme de l'intelligible vers le sensible, et aux agitations extérieures. Donc deux choses vont empêcher l'acte de contemplation qui fait l'essence de la vie contemplative. D'abord les passions qui se révoltent contre la volonté contre l'intelligence et l'intelligence contre Dieu. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué souvent, je ne reviens pas trop, que Adam et Ève avaient été créés avec un don spécial qu'on appelle le don d'intégrité. Le don d'intégrité. Mais ce don d'intégrité, malheureusement, a disparu avec le péché originel. Et donc, il y a maintenant, à la place du don d'intégrité, il y a une bagarre constamment contre les violences des passions qui vont pousser justement aux vertus actives et mépriser les vertus passives. Par exemple, l'humilité, la prière, l'adoration, etc. Et c'est pour cela, encore une fois, que le pape Léon XIII avait envoyé, j'ai retrouvé le nom de le cardinal dont je parlais, le cardinal Gibbons, avait envoyé une lettre justement pour condamner cette tendance à mépriser la contemplation. Le cardinal Gibbons et ses petits copains qui étaient tous prémodernistes en quelque sorte, à la fin du 19e siècle, il y avait Monseigneur Ireland aussi, dans ce lot-là, étaient des gens qui méprisaient la vie contemplative. Je crois que c'était cardinal Gibbons ou Monseigneur Ireland qui avait refusé, je crois que c'était à Philadelphie, la fondation du Carmel, parce qu'il disait que la vie carmélitaine, donc la vie contemplative pure, ne correspondait pas à la mentalité américaine. Et c'est pour cela que Léon XIII, quand il a condamné cette mauvaise tendance, qui était une tendance activiste, a appelé ça l'américanisme, parce que c'était malheureusement quelque chose de très fréquent aux États-Unis à l'époque. Ça l'est toujours. Donc, l'acte de contemplation se heurte à deux obstacles. D'une part, les concupiscences, la violence des passions, donc la révolte des passions contre le contrôle de l'âme, qui détourne l'intention de l'âme de l'intelligible vers le sensible. Les passions vont nous, si vous voulez, vont empêcher l'oiseau de voler et au contraire, le maintenir les pieds dans la boue, les pattes dans la boue, ce qui fait qu'il ne veut pas voler. Deuxième obstacle, c'est les agitations extérieures. Ça, c'est le monde. Vous voyez, c'est pour cela que la vie mondaine, la vie dans le monde, avec l'esprit du monde, tue complètement l'esprit contemplatif. C'est pour ça que les gens modernes sont incapables de prier, parce qu'ils ont envie d'être dans le bruit tout le temps. Je vois les jeunes, par exemple, beaucoup de jeunes, surtout ceux qui ne sont pas éduqués en famille, vivent dans un bruit constant. Ils ont constamment sur les oreilles des oreillettes, et ils écoutent de la musique rap ou de la musique rock, avec ce rythme diabolique, constamment. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas rester une seule seconde dans le silence. Alors, ils viennent des hyperactifs, avec des catastrophes morales que cela entraîne. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc, saint Thomas explique, j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental pour comprendre le reste. Donc, deux obstacles à la vie contemplative, à la possibilité même de la vie contemplative, à l'essence même de la vie contemplative. Premier obstacle, les passions, qui ne sont plus contrôlées par la volonté, donc la violence des passions, qui va détourner l'âme de l'intelligible et pousser l'âme vers le corps, seul en oubliant la partie intellectuelle. Donc pousser l'âme vers les choses sensibles, et même les choses sensuelles. Deuxième obstacle, le bruit du monde, les agitations extérieures. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on essaie de convertir les gens, qui se dit c'est Saint-Ignace, c'est tellement le moyen plus fort de conversion d'âme aujourd'hui, c'est l'exercice de Saint-Ignace. Première chose qu'on fait au début des exercices de Saint-Ignace, c'est mettre les gens en silence. C'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher les exercices de Saint-Ignace dans une ville, c'est impossible. Ou alors il faut un grand parc pour pouvoir avoir une zone tampon de silence. S'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de prédication des exercices de Saint-Ignace. Et le silence est indispensable pour le succès de la retraite. Quelqu'un qui ne garderait pas le silence aux exercices de Saint-Ignace, je leur fais deux réflexions, à la troisième ils sont dehors, je les mets dehors. Même s'ils ont fait des kilomètres pour venir, je les mets dehors parce que ils ne feront pas de retraite et ils empêchent tout le monde autour d'eux de faire une bonne retraite. Les vertus morales, dit saint Thomas, réfrènent la violence des passions et apaisent les agitations qui proviennent des occupations extérieures. C'est pourquoi les vertus morales se rattachent à la vie contemplative à titre de disposition. Donc saint Thomas se pose la question de savoir si les vertus morales appartiennent à la vie contemplative, il faut répondre que les vertus morales sont une disposition préalable mais nécessaire à la possibilité même de la vie contemplative. Dans les vertus morales Ce qu'on trouve, c'est une beauté participée en tant qu'elle participe de l'ordre rationnel, de l'ordre raisonnable. À titre premier, dans la tempérance, qui réprime les convoitises, lesquelles obscurcissent au maximum la lumière de la raison. Ça veut dire que si la tempérance ne réprime pas les passions, surtout les passions dans le domaine de la nourriture et de la vie sexuelle, de la vie sensuelle, surtout dans ce domaine-là, si la tempérance ne réprime pas cette concupiscence des yeux et cette concupiscence de la chair, la lumière de la raison va être obscurcie à un point tel que l'âme est incapable de lire. Si vous voulez, elle ne peut plus lire parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Alors, de là vient, dit saint Thomas, que c'est au maximum la vertu de chasteté qui rend apte à la contemplation, du fait que les délectations sexuelles sont ce qui rabaisse le plus l'esprit au niveau du sensible. Donc ça, c'est une phrase très importante de saint Thomas. Je répète, c'est au maximum la vertu de chasteté qui rend apte à la contemplation, du fait que les délectations sexuelles sont ce qui rabaisse le plus l'esprit au niveau du sensible. C'est pour ça qu'un moine contemplatif, par définition, est dans un monastère ou dans un lieu où il est coupé du monde. Il ne peut pas avoir une vie contemplative dans le monde moderne. Et le démon le sait très bien. Pour couper une âme de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour couper une âme de Dieu, la première chose à faire, c'est empêcher la vie contemplative dans une âme. Je répète souvent cette phrase, je ne sais plus très bien quel contre-révolutionnaire qui avait dit ça, qu'on ne peut rien comprendre à la révolution sans avoir compris que la révolution, dans son essence même, profondément anti-contemplative, anti-contemplation, contre que il disait exactement, la citation disait la révolution n'est rien d'autre qu'une lutte acharnée contre toute forme de vie contemplative. Donc toute forme de prière. Meilleure façon de lutter contre les influences de la révolution dans son âme, c'est se mettre à genoux de prier. La prière justement détruit la force du corps et ramène le contrôle de l'âme sur le corps. Article 3, la question 180, la vie contemplative comporte-t-elle des actes divers? C'est une question un peu plus facile. Donc, saint Thomas redit une fois de plus la même chose, l'acte final qui consomme tout, c'est la contemplation même de la vérité. Il donne l'exemple de l'ange. L'ange voit la vérité d'un simple regard, tandis que l'homme ne parvient à cette intuition de la simple vérité que par une suite d'opérations à partir de données multiples. Pourquoi? Parce qu'il comprend les choses par abstraction à partir du sensible. L'âme, l'ange au contraire, comprend les choses par intuition directe. Donc il met sa volonté directement dans ce qu'il a choisi, ce qu'on appelle le système intuitif de connaissance. C'est pour ça qu'une fois qu'un ange a fait un choix, il ne peut plus revenir en arrière. Le choix est définitif. Parce que l'ange a mis sa volonté dans le choix qu'il a fait. Il ne peut plus revenir en arrière, il ne peut plus demander pardon. Un ange est incapable de demander pardon s'il a fait une bêtise. Et c'est le cas des malheureusement du tiers des anges qui ont été condamnés à l'enfer parce qu'ils ont voulu prendre la place de Dieu. Rappelez-vous le cri de guerre de Lucifer, « Je ne servirai pas ». Eh bien, ces anges sont en enfer, et en enfer, le tiers des anges qui est en enfer, eh bien, continuent de garder cette haine de Dieu. Ils ne regrettent pas l'acte qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de regret. L'homme, au contraire, qui lui comprend les choses par abstraction, ayant une faculté donc de tirer du sensible des renseignements que lui donnent les cinq sens, une image intellectuelle qui va lui permettre de connaître à l'intérieur du cerveau ce qui se passe à l'extérieur, un homme est capable, à cause de son système abstractif de connaissances, un homme est capable de faire... peut malheureusement faire des erreurs, mais peut demander pardon pour son erreur et faire marche arrière. Ce qu'un ange ne peut pas faire. Voilà le texte de saint Thomas. Il y a donc dans la vie contemplative beaucoup d'autres actes qui la préparent à cet acte suprême de contemplation de la vérité. Certains de ces actes se rapportent à l'acquisition des principes, d'où l'on procède à la contemplation de la vérité. D'autres, au contraire, ont pour objet... D'autres ont pour objet de déduire à partir des principes de la vérité que l'on cherche à connaître. Et conclusion, l'acte final et qui consomme tout, c'est la contemplation même de la vérité. Donc, grâce à la contemplation, on peut déduire à partir des principes la vérité que l'on cherche à connaître, et c'est cette contemplation même de la vérité qui permet la vie spirituelle. Donc, cette contemplation même de la vérité va amener à la méditation. La méditation s'entend, à ce qu'il semble, dit saint Thomas, du progrès de la raison qui, à partir de certains principes, s'achemine à la contemplation d'une vérité. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Sauf grâce mystique spéciale donnée par le bon Dieu. En général, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de ce qu'on appelle de la vie purgative, puis l'étape de la vie illuminative, et enfin l'étape de la vie unitive. Donc, on ne passe pas tout de suite à l'aboutissement de la vie spirituelle. Il y a un système de progression lente, dont va parler saint Thomas, qui va faire passer, si vous voulez, d'une vie de commençant, puis ensuite de progressant, avant d'arriver à la vie intime, à la connaissance de la vie intime de Dieu. Chez les parfaits. Donc, voilà une citation de saint Thomas d'Aquin. La contemplation est le pénétrant et libre regard de l'esprit sur les choses qu'il regarde. La méditation est donc le regard de l'esprit en quête de la vérité. La cogitation, c'est l'esprit en train d'inspecter les choses, mais qui ne fixe encore rien. Donc, c'est une fixation par la méditation de ce qui commence par la cogitation. Donc, voir un objet dans un miroir, c'est voir une cause dans son effet ou sur le fait de son image. La spéculation équivaudrait donc à la méditation. Donc, l'admiration est un acte conséquentif à la contemplation d'une vérité sublime. Plus on s'approche de Dieu, plus on le voit, et mieux on le connaît, et plus on l'aime, évidemment. À l'égard de ce qu'il reçoit des hommes, l'audition est nécessaire. S'il s'agit d'un enseignement oral, c'est le rôle du prédicateur. Et la lecture, s'il s'agit d'un enseignement écrit. Tantôt, et c'est l'autre voie, il lui faut employer l'étude personnelle, d'où la nécessité de la méditation. Donc l'étude est nécessaire pour avoir cette connaissance basique qui nous permet de diriger notre âme, d'arracher notre âme aux choses sensibles pour les présenter devant les choses intellectuelles, les choses raisonnables. Article 4 de la question 180, la contemplation de n'importe quelle vérité appartient-elle à la vie contemplative? Alors voilà la réponse de saint Thomas. La contemplation de la vérité divine constitue l'élément principal de la vie contemplative. Vous voyez, on voit à quel point il insiste sur cette répétition. Pratiquement à chaque article, il va répéter la même introduction. La contemplation de la vérité divine constitue l'élément principal de la vie contemplative. Alors, si saint Thomas estime qu'on ne peut pas enseigner sans répéter constamment les mêmes choses, au moins au début, pour à chaque fois faire progresser les choses, je vous le dis, c'est expliqué, c'est un petit peu ce qu'on appelle le phénomène de la tuile. Moi, j'aime bien appeler ça le tuilage. Parce que une tuile, si vous voulez, on en pose une première en bas du toit, puis après, on en met une deuxième qui recouvre en partie la première. On ne les met pas bord à bord. Si on mettait les 2 tuiles bord à bord, il y aura une zone d'infiltration possible pour la pluie. Donc, on recouvre en partie la première tuile, par exemple, le tiers supérieur de la première tuile, avec la 2e tuile. Et ensuite, on va recouvrir le bord supérieur de la 2e tuile avec la 3e tuile, puis recouvrir le bord supérieur de la 3e tuile avec la 4e tuile, etc., jusqu'au faîte du toit. C'est la même chose avec la vie spirituelle. Donc, il faut constamment réexpliquer les mêmes choses, on répète les mêmes choses, et à chaque fois, on progresse un peu. C'est ce que fait saint Thomas, et c'est ce que j'essaie de faire en suivant saint Thomas d'Aquin. C'est évident que c'est un système didactique d'enseignement qui est détesté par les morels. Par les modernes. Pourquoi les modernes détestent-ils ce système d'enseignement? Parce que ils veulent être toujours dans la liberté complète. Saint Thomas d'Aquin guide notre liberté. Il enferme la liberté pour qu'elle puisse pas perdre son temps sur des voies de garage. On voit très bien la constitution de chaque article de la somme. C'est pour ça qu'il commence par les objections contre la vérité qu'il va enseigner. Ensuite, le corps de l'article qui explique la vérité, puis la réponse à chaque objection. Et à la fin, il n'y a plus de voie de sortie, sauf la voie de la vérité. Donc, la contemplation de la vérité divine constitue l'élément principal de la vie contemplative. Et cette sorte de contemplation est la fin même de la vie humaine. La contemplation de Dieu nous est promise comme la fin de toutes nos actions, l'éternelle perfection de nos joies. Dans ce temps-là, la contemplation de la vérité divine ne nous est possible que de façon imparfaite, dans un miroir sous forme d'énigme. On ne peut pas contempler Dieu, le voir tel qu'il est face à face, c'est impossible. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore au ciel. Au ciel, on aura une contemplation divine sans obstacle. Donc on comprendra Dieu autant que c'est possible pour nous de le comprendre. Les œuvres divines, même les œuvres de la création, nous mènent à la contemplation de Dieu. C'est saint François qui contemplait une petite fleur, et qui était abasourdi par la beauté de la fleur, parce que cette beauté de la fleur lui présentait la beauté de Dieu. Ce que dit aussi saint Paul, aux Romains, les perfections invisibles de Dieu nous sont rendues accessibles et mises sous les yeux par le moyen des créatures. Il s'ensuit donc que la contemplation des œuvres de Dieu appartient aussi, en second lieu, à la vie contemplative en tant que l'homme, par elle, l'homme se trouve à cheminer à connaissance de Dieu. Donc la beauté extérieure nous aide à élever notre âme vers la contemplation divine. Au contraire, la laideur extérieure nous empêche de lever les yeux vers Dieu et nous oblige à maintenir les yeux englués, en quelque sorte, vers la boue du monde moderne. C'est pour ça que le monde moderne est incapable de faire du beau. On voit très bien dans les villes modernes, tout est bétonné. Du béton partout, des cages à poules partout en béton, il n'y a plus de belles choses. On voit aussi très bien dans l'église de Vatican II. L'église de Vatican II ayant perdu la grâce de Dieu, la grâce sanctifiante, le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, est absolument viscéralement incapable de faire quoi que ce soit de beau. Vous allez chercher l'église de Vatican II dans un village, dans une ville, cherchez le bâtiment le plus laid de la ville. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous êtes dans l'église de Vatican II. Dans l'église paroissiale de Vatican II, c'est tout à fait ça. Au Moyen-Âge, c'était l'inverse. L'esprit de contemplation était partout, même dans la construction d'une cathédrale. Donc il était impensable pour un architecte de construire une cathédrale qui soit laide, avec des motifs qui soient laids. C'était impensable. Il aurait été jeté immédiatement, cet architecte. Donc tout était centré dans la contemplation de la vérité, et donc la construction des cathédrales qui élève l'âme vers le bon Dieu, élever l'âme vers le bon Dieu et donc vers la contemplation. C'est pour ça que dans l'art du Moyen-Âge, on ne trouve rien de laid, tout est beau. Tout est beau dans une chapelle romane par exemple, du 12e ou du 13e siècle, tout est beau, il n'y a pas de distraction par les choses sensibles. Tout monte vers le bon Dieu. Il y a tout près de l'endroit où j'habite, là, sur Padiès, près d'Albi, près de Valence del Bijoy, il y a une magnifique basilique, une abbatiale en fait, à Ambialé. C'est à peu près 20 minutes en voiture d'ici. Quand les gens viennent en retraite ici, je leur conseille beaucoup après la retraite d'aller visiter Ambialé. Ambialé, c'est un village, une boucle du Tarn, et la rivière du Tarn, et il y a une colline au-dessus avec une église splendide du 11e siècle qui vient d'être complètement restaurée. Donc c'est du pré-roman. Donc il y a une pureté de style extraordinaire. Donc il n'y a pratiquement pas de décoration extérieure. Tout est centré vers l'autel. Toute la lumière qui rentre par les petites ouvertures, ça ressemble beaucoup à un château fort en quelque sorte. Le pré-roman, c'est avec des murs très épais et il n'y a pas de vitraux. Et donc toute la lumière s'est centrée sur l'autel avec la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le beau aide à monter vers le bon Dieu. Le laid nous rapproche du démon. Rappelez-vous ce que j'explique très, très profondément pendant les exercices. J'insiste à fond là-dessus dans les règles de discernement des esprits. Les signes par lesquels on peut reconnaître la présence du démon autour de nous, un de ces signes, c'est l'amour du laid. Et au contraire, un des signes par lesquels on peut reconnaître la présence du bon Dieu dans notre âme, c'est l'amour du beau. Donc la contemplation des œuvres de Dieu appartient en second lieu à la vie contemplative en tant que par elle l'homme se trouve à cheminer à la connaissance de Dieu. La vie contemplative en quelque sorte part de la beauté. Pourquoi ? C'est la beauté qui va nous faire monter vers le bon Dieu. Oui. Quand on voit un magnifique ciel étoilé pendant une nuit d'hiver ou une nuit d'été, eh bien, ça nous monte vers le bon Dieu, parce qu'au-dessus de ces étoiles, il y a le bon Dieu. C'est pas possible que ces étoiles puissent exister sans qu'il y ait un Dieu qui les ait créées, c'est évident. Donc, quatre éléments dans un certain ordre appartiennent à la vie contemplative. Les vertus morales. Deuxièmement, certains actes ou de la contemplation elle-même. Troisièmement, la contemplation des œuvres divines. Et enfin, quatrièmement, la contemplation même de la vérité divine. On contemple les œuvres de Dieu sur la terre, et ces œuvres de Dieu sur la terre nous aident à monter vers le ciel, parce que la perfection invisible de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, nous sont rendues accessibles et mises sous les yeux par le moyen des créatures. Et qu'il y a une richesse dans ces textes de saint Thomas. Ça, je conseille beaucoup à ceux qui ont la somme, allez directement dans la somme et lisez tranquillement ces articles. Bon, ça demande un certain travail intellectuel, mais je vous assure que vous ne perdrez pas votre temps. Donc saint Thomas, en conclusion, va parler de six espèces de contemplation à propos d'un texte de Richard de Saint-Victor, un théologien du Moyen-Âge. Donc voilà ce que dit saint Thomas à partir de ces six espèces de contemplation, qui représentent selon lui autant de degrés par où l'on s'élève des créatures à la contemplation divine. Alors le premier degré, donc voilà ce qu'il dit, ces six espèces de contemplation représentent autant de degrés par où l'on s'élève des créatures à la contemplation divine. La perception des choses sensibles est située au premier degré. Bon. Puis deuxième degré, le mouvement par où l'on s'élève des choses sensibles aux intelligibles. Donc ça, c'est le mouvement qui part du sensible pour monter vers les choses intellectuelles. Le jugement porté sur les choses sensibles à la lumière des intelligibles compose le troisième degré. Donc premier degré, les choses sensibles. Deuxième degré, les choses intellectuelles. Troisième degré, le jugement à partir de ces choses intellectuelles. Quatrième degré, la considération des intelligences eux-mêmes. La considération des intelligibles eux-mêmes formés à partir des choses sensibles constitue le quatrième degré. Puis, la contemplation des intelligibles qui ne saurait s'acquérir par le moyen des réalités sensibles, mais que la raison peut connaître, constitue le cinquième. Oui, on s'élève de plus en plus vers le bon Dieu. Sixième degré de contemplation, il est formé des intelligibles que la raison ne peut ni acquérir ni connaître, mais qui appartiennent à la sublime contemplation de la vérité divine, en laquelle s'achève finalement la contemplation. Même conclusion, toujours la même, par à l'arrivée de la finale de la contemplation, au point le plus élevé, on arrive à la sublime contemplation de la vérité divine. Donc l'ultime, c'est ce que dit saint Thomas en conclusion de cet article numéro 4 de la question 180, l'ultime perfection de l'intelligence humaine, dit-il, c'est la vérité divine. Article 5 de la question 180 de la Secunda Secundae, dans l'état présent, la vie contemplative peut-elle atteindre à la vision de l'essence divine ? Alors, rappelez-vous l'objection, c'est une affirmation qui dit avec vérité, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Donc, aussi longtemps qu'il vit dans une chair mortelle, nul ne fait dans la contemplation assez de progrès pour qu'il puisse fixer le regard de son esprit sur le foyer même de la lumière sans borne. Donc, il n'est pas possible ici-bas sur la terre d'avoir une clarté suffisante pour utiliser notre intelligence pour voir l'essence même de Dieu. Bon, il y a eu des miracles, et c'est de l'ordre du miracle, par exemple saint Paul qui part en espèce de ravissement et qui est littéralement séparé de son corps, il a l'impression que son âme se détache de son corps, monte vers le ciel, et à ce moment il a une contemplation de l'essence même de Dieu, au moins en partie. Mais c'est vraiment du domaine du miracle. Alors, saint Thomas a approfondi la chose. Donc comment on peut arriver à cette contemplation divine? Premièrement, de façon actuelle, avec l'usage actuel des sens corporels. Apprendre les choses ainsi, la contemplation de la vie présente ne peut aucunement atteindre à la vision de l'essence divine. Pourquoi? Puisqu'il y a un trop grand éloignement de la vision divine, de la vision d'ici-bas. Dieu est trop loin de nous d'un certain côté pour qu'on puisse se connaître par l'usage exclusif et de notre intelligence. Donc il faut une lumière spéciale qui nous soit donnée par Dieu, qui élève notre âme, qui la sépare littéralement du corps pour qu'elle puisse voir Dieu. Alors, cela sera possible après la mort, après la séparation entre l'âme et le corps. Ici-bas, ce n'est pas possible, sauf grâce extraordinaire de ravissements spécifiques qui vont donner des lumières telles, une lumière telle que l'âme va pouvoir entrevoir l'essence même de Dieu. Donc, de façon simplement potentielle et non pas actuelle, l'âme, tout en étant unie au corps mortel comme sa forme, se trouve à un moment donné ne point user des sens corporels ni de l'imagination, phénomène qui se vérifie dans le ravissement, j'ai déjà expliqué. Dans ce second cas, la contemplation de cette vie peut atteindre la vision des sens divines. C'est-à-dire que Dieu peut, pour un homme qui vit ici-bas, par un ravissement, une grâce spéciale, séparer littéralement pendant un temps l'âme du corps qu'elle meut, pour élever cette âme vers le ciel et donner à cette âme déjà une idée de la contemplation, de ce qu'est la contemplation de l'essence divine. Et c'est pour ça que tous les saints qui sont passés par là, vont dire, ont du mal à expliquer ce qu'ils ont vu. Hein. Saint Paul le dit lui-même, il dit, je ne sais si c'est dans mon corps ou hors de mon corps, mais j'ai vu des choses que l'esprit humain est incapable d'expliquer, de révéler. D'accord ? Si quelqu'un qui voit Dieu comprend ce qu'il voit, ce n'est pas Dieu qu'il voit, mais quelqu'une des choses qui lui appartiennent. Donc à partir des choses ici-bas, on peut monter vers la connaissance de Dieu. Article 6, vous voyez que cette question 180 est très très lourde d'importance. Donc article 6, c'est les mouvements de contemplation. Donc à partir de Saint-Denis, le grec. Saint-Denis, l'aéropagite. Alors voilà ce que dit Saint Thomas. Donc c'est une question très philosophique. Et donc Saint-Denis explique que les mouvements de contemplation sont distingués, sont différents les uns des autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que là, c'est de la haute philosophie. Encore une fois, je dépasse le cadre du cours. Donc, Saint Denis parle d'un mouvement circulaire qui se resserre de plus en plus pour se rapprocher rapprocher du bon Dieu. Une espèce, dit-il, ce texte de Saint Denis, un enroulement des puissances sur elles-mêmes par où l'âme se libère de l'erreur et des occupations extérieures. Alors, avançons. Donc, on est toujours dans l'article 6. Il y a dans une des réponses aux objections, la deuxième, une phrase importante. L'intelligence de l'âme tire les vérités intelligibles des choses sensibles et les saisit par voie de raisonnement. C'est comme un aigle qui tourne en cercle à haute altitude pour arriver à repérer sa proie. Puis une fois qu'il la repère, donc il va avoir un cercle, une circonférence de plus en plus petite dans son cercle, et puis à un moment, il se laisse tomber comme une pierre pour atteindre la proie et la saisir dans ses serres. Donc, l'intelligence de l'âme, au contraire, tire les vérités intelligibles des choses sensibles et les saisit par voie de raisonnement. J'ai déjà expliqué. Article 7 de la question 180, le plaisir de la contemplation. Donc, la contemplation doit nous donner un plaisir, et quel est ce plaisir ? Et il cite Saint Grégoire le Grand encore, un autre grand docteur de l'Église, « La vie contemplative est bien d'une aimable douceur. » La contemplation du nom de Dieu, du nom de Jésus. C'est hier, la fête du Saint-Nom de Jésus. Il y a des textes liturgiques dans le bréviaire du Saint-Nom de Jésus qui sont extraordinaires justement pour montrer cette délectation que l'on peut obtenir dans notre âme par la contemplation du nom de Jésus. La contemplation de la vérité correspond à la nature de l'homme, animal raisonnable. Encore une fois, Saint Thomas répète. C'est ce qui fait que l'homme a le désir naturel de savoir et jouit par conséquent de connaître la vérité. Donc la connaissance de la vérité est le but de la vie sur la terre. La vie contemplative, dit Saint Thomas, consiste principalement donc en cette contemplation de Dieu à laquelle la charité nous pousse. Nous l'avons dit. Et il s'ensuit que dans la vie contemplative, il n'y a pas seulement délectation à cause de la contemplation elle-même, mais encore en raison de l'amour de Dieu. Plus on contemple Dieu, plus on le connaît, plus on connaît Dieu, on l'aime, plus on l'aime. Rappelez-vous le texte de Sainte Thérèse d'Avila, « Mon doux sauveur n'est pas aimé parce que mon doux sauveur n'est pas connu. » Donc prenons le temps d'étudier pour connaître notre Seigneur et le connaissant, on l'aimera de plus en plus. Donc plus grand fut le péril dans le combat, plus grande est la joie dans le triomphe. Donc cette contemplation ne s'obtient pas en 5 minutes. Dans la contemplation, la contention et la lutte que nous avons à soutenir ne viennent pas de ce que la vérité contemplée nous est contraire. La cause en est dans l'insuffisance de notre intelligence, dans l'infirmité de notre corps, à cause des passions, à cause des concupiscences qui nous tirent vers le bas. Donc, l'insuffisance de notre intelligence, nous avons une intelligence de la taille d'un pois chiche. Comment voulez-vous qu'une intelligence de la taille d'un pois chiche, on puisse comprendre l'extraordinairement grande intelligence de Dieu ? C'est pas possible. Donc l'insuffisance de notre intelligence et l'infirmité de notre corps qui nous tire vers le bas sont des... Je reprends ma phrase, j'ai perdu ma ligne. La cause en est dans l'insuffisance de notre intelligence, dans l'infirmité de notre corps qui nous tire vers le bas. Donc lorsque l'homme parvient à la contemplation de la vérité, il l'en aime plus ardemment. Il l'aime plus ardemment, tandis qu'il est achaïté, il est davantage cette impuissance qui lui vient de la pesanteur du corps corruptible. Donc, plus l'homme parvient à la contemplation de la, vie, de la vérité, plus il aime ardemment notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque, par le désir et l'intelligence, Dieu vient à être connu, il affadit toutes les vérités, les voluptés corporelles. À ce moment-là, on se sépare des choses sensibles, se sépare des choses sensuelles, et on peut s'élever vers le bon Dieu. Parce que le fil à la patte a été coupé. Et c'est une très belle phrase, une citation de Saint Grégoire, je le répète. Lorsque par le désir de l'intelligence, Dieu vient à être connu, il affadit toutes les voluptés corporelles. Article 8 de la question 180, la durée de la contemplation. Donc voilà ce que dit Saint Thomas. La vie contemplative commence ici-bas pour atteindre sa perfection dans la patrie céleste. Donc la vie contemplative ici-bas, par définition, est imparfaite. Elle va atteindre sa perfection uniquement lorsqu'elle sera dans la patrie céleste. Et pourquoi pourra-t-elle atteindre sa perfection au ciel ? C'est tout simplement parce que le ciel n'aura plus les attaques des trois concupiscences et n'aura plus les soucis du monde qui nous tire vers le bas. Donc on sera libéré, plus de fil à la patte, à ce moment on peut s'élever tranquillement vers le ciel comme un aigle qui monte très haut dans le ciel. Donc la vie contemplative compense ici-bas pour trouver au ciel son achèvement. C'est pour ça que certains saints vont jusqu'à dire que la vie contemplative ici-bas, c'est déjà le ciel ici-bas. Donc une âme en état de grâce, par définition une vie contemplative, une âme, au moins en partie, une âme qui a une vie contemplative est une âme qui possède en elle-même déjà un petit bout de paradis. C'est énorme. Voilà, nous avons terminé cette question 180, qui est certainement une des plus importantes questions de ce traité. Nous verrons qu'il y a encore des choses encore plus belles dans les questions qui vont suivre, notamment la question 182. Alors passons à la question 181, sur la vie active. Donc, une question plus facile, plus courte, il n'y a que 4 articles. Article numéro 1 de la question 181, tous les actes des vertus morales appartiennent-ils à la vie active ? Donc, les actes, dit saint Thomas, de toutes les vertus morales appartiennent à la vie contemplative. Il faut d'abord extirper, c'est une phrase très importante, c'est saint Isidore, un grand docteur espagnol. Saint Isidore qui disait, il faut d'abord extirper la totalité des vices par l'exercice des bonnes œuvres dans la vie active, on pourra alors s'appliquer d'un esprit dont le regard est déjà purifié à la contemplation de Dieu dans la vie contemplative. Avant d'arriver en vie unitive, il faut commencer par la vie purgative, puis la vie illuminative. On ne peut pas passer directement de la vie purgative à la vie unitive, c'est pas possible, sauf grâce toute particulière du bon Dieu. Donc, qu'est-ce que dit Saint Isidore, cité par Saint Thomas d'Aquin? Donc, il faut d'abord la moralité, c'est-à-dire d'abord extirper les vices par l'exercice des bonnes œuvres. Une fois que les vices ont été extirpés, surtout par le sacrement de pénitence, comme la Sainte Eucharistie, à ce moment-là, on pourra s'appliquer, notre regard étant purifié, notre âme étant purifiée, notre intelligence et notre volonté étant purifiées, les concupiscences étant réfrénées par le contrôle de la volonté et de l'intelligence, on pourra alors s'appliquer à la contemplation de Dieu dans la vie contemplative. Donc les actes des vertus morales appartiennent bien à la vie contemplative. Donc la fin de la vie contemplative, c'est, dit saint Thomas, il répète une fois de plus, la considération de la vérité, et la fin de la vie active, c'est... La fin de la vie active, ce sont les choses extérieures, les travaux extérieurs. Donc il faut les deux choses. La contemplation de la vérité, la considération de la vérité, qui est la fin de la vie contemplative, est au-dessus de la contemplation des choses actives, évidemment. Donc la vie active, conclusion de saint Thomas, en fin de question 181, article 1, la vie active dispose à la vie contemplative. Article 2, la prudence appartient-elle à la vie active ? Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. La prudence, la connaissance prudentielle, plus exactement, est la droite raison appliquée à diriger l'action. Je répète, la connaissance prudentielle est la droite raison appliquée à diriger l'action. Les vertus morales, chez celui qui les ordonne au repos et à la contemplation, appartiennent donc à la vie contemplative. Parce que les vertus morales vont permettre justement à la droite raison de s'appliquer à diriger l'action. Donc les vertus morales sont nécessaires pour préparer le passage à la vie contemplative. Donc il cite Cicéron, donc il va même prendre chez les auteurs païens ce qu'il y a de bon qui peut aider à faire comprendre le point qu'il étudie aux fidèles qui lisent son œuvre. Celui qui peut, disait Cicéron, avec acuité et promptitude, discerner le vrai et le mettre en lumière, est habituellement tenu pour très prudent, très sage. Donc un contemplatif est quelqu'un qui va pouvoir discerner le vrai et le mettre en lumière. C'est un don extrêmement utile aujourd'hui, la pagaille qui règne. Il faut d'abord réapprendre, nous disait Monseigneur Lefebvre, réapprenez à vos fidèles à penser droit. Je répète cette phrase, celui qui peut avec acuité et promptitude discerner le vrai et le mettre en lumière est habituellement tenu pour très prudent et très sage. Donc la vraie prudence vient directement de la vie contemplative. Article 3, la question 181, l'enseignement appartient-il à la vie active ? Alors, voilà ce que dit Saint-Thomas. L'enseignement relève tantôt de la vie active, tantôt de la vie contemplative. Non, l'enseignement nous aide à posséder la vie active pour amener l'âme à la vie contemplative. Donc, de la vie active, quand l'homme conçoit quelques vérités, pour y trouver la lumière directrice de son activité extérieure. Donc, je reprends la phrase complète. L'enseignement a donc pour premier objet la matière même ou l'objet de la conception intérieure. À l'égard de cet objet, l'enseignement relève tantôt de la vie active, tantôt de la vie contemplative. De la vie active, l'homme conçoit quelques vérités pour y trouver la lumière directrice de son activité extérieure. De la vie contemplative, quand l'homme conçoit quelques vérités intelligibles pour se délecter de la considérer et à l'aimer. Vous voyez, encore une fois, saint Thomas fait bien cette distinction entre vie active et vie contemplative. Vie active qui est la vie du corps, pour y trouver les lumières directrices de son activité extérieure, et au contraire la vie contemplative qui nous amène à la délectation même de la vérité. Article 4, la durée de la vie active. Nous sommes toujours dans la question 181. On va terminer cet article pour avoir terminé la question 181. On aura déjà bien avancé dans ces passages très importants de saint Thomas sur la contemplation. La durée de la vie active. Il cite saint Grégoire le Grand, « Avec la vie présente, la vie active disparaîtra. Mais la vie contemplative commence ici-bas pour trouver son achèvement dans la patrie céleste. » On explique ça par un exemple tout simple. Au ciel, il n'y a besoin que de la charité. Plus besoin de foi, plus besoin d'espérance. On n'a pas besoin de croire en quelqu'un qu'on voit. On n'a pas besoin d'espérer en quelqu'un qui est devant nous. Donc il n'y a plus de ciel. Au ciel, il n'y a plus de foi et plus d'espérance. Mais la charité demeurera. Avec le siècle présent, la vie active disparaîtra. Mais la vie contemplative commence ici-bas pour trouver un achèvement dans la patrie céleste. Vous voyez à quel point saint Thomas donc progresse. Il a une science de Dieu extraordinaire. Vous savez que quand il était devant une question compliquée, il n'arrivait pas à trouver la réponse, il descendait de sa cellule à la chapelle, il ouvrait la porte du tabernacle et il mettait sa tête dans le tabernacle. Il restait la tête dans le tabernacle jusqu'à ce qu'il ait la réponse. Et il contemplait tout le temps. Une fois, il était reçu à table de Saint-Louis. C'était un contemporain de Saint-Louis. Donc il était reçu à table de Saint-Louis. Il était à la droite de Saint-Louis, à la gauche de Saint-Louis. Et tous les chevaliers qui étaient à table parlaient entre eux, et puis saint Thomas d'Aquin, il disait, il était perdu dans ses pensées, à côté du roi. Et les gens étaient un peu choqués, en disant, quand même, et à côté du roi, il pourrait parler avec le roi, alors il ne dit pas un mot, il est perdu dans son esprit, là, loin des hommes. Et d'un seul coup, saint Thomas donnait l'impression d'être endormi, en fait, il n'était pas endormi, il méditait, il a tapé le poing sur la table en disant, voilà l'argument que je cherchais contre les hérétiques. Alors, tous les chevaliers étaient scandalisés de l'attitude de saint Thomas, mais pas Saint-Louis, qui a tout de suite fait chercher un scribe qui a noté sur la tablette ou sur le papier, je ne sais pas ce qu'ils utilisaient à l'époque, il a fait tout de suite noter la réponse aux hérétiques, contre les hérétiques, qu'a dicté saint Thomas d'Aquin. Voilà. Comme quoi on peut philosopher même quand on est en train de manger. Donc nous avons terminé avec ces trois premières questions sur la vie active. Question 171, question pardon, 179, 180 et 181. Alors, il y a encore la question 182. Donc, puisque cette partie sur la vie contemplative se termine à la fin de la question 182, mais là, il y a encore quatre articles, dont un des plus beaux articles de la Somme, l'article 1 de la question 182, c'est pour savoir quelle est la plus importante de ces deux vies, la vie active ou la vie contemplative. On verra ça, si Dieu veut, la semaine prochaine. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pilice, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.